L'idiot, première partie, chapitre 13. Le prince était fort inquiet en montant le perron et faisait tout son possible pour se donner du courage. « Le pis qui puisse m'arriver, pensait-il, c'est qu'on ne me reçoive pas et qu'on prenne une mauvaise opinion de moi, ou qu'on me reçoive pour me rire au nez. Eh, qu'importe !» En effet, ce n'était pas encore là le plus effrayant. Mais il se demandait aussi « Que ferais-je là ? Pourquoi y vais-je ? » Et à cette question, il ne trouvait pas de réponse satisfaisante. Si même, servi par les circonstances, il pouvait, dans un tête-à-tête avec Nastassia Philippovna, lui dire « N'épousez pas cet homme, vous feriez votre malheur. Il ne vous aime pas, il n'aime que votre argent. Lui-même me l'a dit, et Aglaé et Panchine m'a parlé dans le même sens. Je suis venu pour vous en donner avis. » Cela serait-il correct à tous les égards ? Il y avait lieu d'en douter. Une autre question encore restait à résoudre, et elle était si importante que le prince n'osait même pas y songer. Il ne savait comment en poser les termes. Dès qu'elle se présentait à son esprit, le rouge lui montait au visage, et il se mettait à trembler. Mais, nonobstant toutes ses inquiétudes et tous ses doutes, il finit par rentrer et demanda Nastassia Philippovna. À son grand étonnement, la bonne à qui il s'adressa, la maîtresse du logis n'avait à son service que des femmes, l'écouta jusqu'au bout sans manifester la moindre surprise. Elle n'eut pas une seconde d'hésitation devant les sales bottes du visiteur, son chapeau à large bord, son manteau sans manches et sa mine confuse. Après avoir débarrassé le prince de son manteau, elle l'invita à entrer dans un salon d'attente et alla aussitôt l'annoncer. Nastassia Philippovna n'avait alors autour d'elle que les plus fidèles habitués de sa demeure. Sa société était assez peu nombreuse comparativement à celle qui, d'ordinaire, se réunissait à pareille date chez la jeune femme. Nous devons signaler en premier lieu la présence d'Afanase Ivanovitch Totski et d'Ivan Fedorovitch Epanchine. Tous deux étaient aimables, mais dissimulaient mal l'inquiétude qu'ils éprouvaient en attendant la décision du sort de Gania. Ce dernier, comme de juste, se trouvait là aussi, très sombre, très soucieux, ne se mettant point en frais d'amabilité. Il restait la plupart du temps à l'écart sans ouvrir la bouche. Il n'avait pu se résoudre à amener sa sœur, mais Nastassia Philippovna ne parut même pas remarquer l'absence de Varia. En revanche, aussitôt après avoir échangé avec Gania les compliments d'usage, elle fit allusion à la scène qui s'était passée tantôt entre lui et le prince. Le général, n'en ayant pas encore entendu parler, voulut la connaître. Alors Gania, sèchement, discrètement, mais avec une entière franchise, raconta l'incident du matin et ajouta qu'il était allé demander pardon au prince. À cette occasion, il exprima en termes très catégoriques son opinion, à savoir qu'on avait eu grand tort de faire au prince une réputation d'idiot, que pour lui, il était d'un avis tout autre, et le considérait au contraire comme un homme très malin. Tandis que Gabriel Ardalionovitch émettait ce jugement, Nastassia Philippovna l'écoutait avec beaucoup d'attention et ne le quittait pas des yeux. Mais la conversation ne tarda pas à tomber sur Rogojine, qui avait pris une part si considérable à l'affaire de tantôt. Ce qu'on dit de lui intéressa vivement Afanase Ivanovitch et Ivan Fedorovitch. Petite Zine était en mesure de fournir des renseignements particuliers sur Parfen Semenitch, attendu que celui-ci l'avait harcelé jusqu'à 9 heures du soir, insistant de toutes ses forces pour que l'usurier lui avançât aujourd'hui même 100 000 roubles. Il est vrai qu'il avait bu, observa à ce propos Ptitsine. Mais quoique 100 000 roubles ne se trouvent pas dans le pas d'un cheval, je crois bien qu'on pourra les lui procurer. Seulement, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, et il devra peut-être se contenter pour le moment d'une partie de la somme. Plusieurs se sont mis en campagne. Kinder, Trépalov, Biscoup. Il consent à donner tel intérêt qu'on voudra. Bref, il parle comme un homme ivre et comme un héritier encore tout à la joie, acheva le narrateur. Toutes ces nouvelles, bien qu'avidement écoulées, n'étaient pas de nature à égayer les esprits. Nastassia Philippovna se taisait. Évidemment, elle ne voulait pas dire ce qu'elle pensait. Il en était de même de Gania. Le général Epanchine, dans son fort intérieur, se sentait peut-être plus inquiet qu'aucun autre. Les perles offertes par lui le matin avaient été reçues avec une amabilité trop froide et frisant même l'ironie. Seul de toute la société, Ferdichenko se montrait gai. Parfois, il riait bruyamment, sans que rien motivât cette hilarité, uniquement pour soutenir son rôle de bouffon. Totski lui-même ne semblait pas dans son assiette. Lui qui passait pour un brillant causeur et qui, d'ordinaire, à ses soirées, tenait le dé de la conversation, il restait muet maintenant, comme si une gêne inaccoutumée lui fermait la bouche. Les autres visiteurs étaient un vieux professeur, pauvre diable invité, Dieu savait pourquoi, et un inconnu tout jeune encore, que sa timidité condamnait au silence. En fait de femme, il y avait une actrice de 40 ans, aux façons pleines de désinvolture, et une jeune dame très belle, admirablement habillée, mais d'une taciturnité extraordinaire. Loin d'animer la conversation, ces 4 personnes ne savaient comment faire, la plupart du temps, pour y placer un mot. Le prince ne pouvait donc arriver plus opportunément. L'annonce de sa visite produisit une sensation de surprise, et des sourires, quelque peu étranges, se montrèrent sur plus d'un visage. Surtout lorsqu'on eut compris, à la mine étonnée de Nastassia Philippovna, qu'elle n'avait pas même songé à l'inviter. Mais, après avoir manifesté son étonnement, la maîtresse de la maison laissa voir tout à coup tant de satisfaction que la majorité des assistants se prépara aussitôt à accueillir par de joyeux lazzi le visiteur inattendu.
Que ce soit un effet de son innocence, c'est possible, dit Ivan Fedorovitch Epanchine. Mais bien qu'en thèse générale, il y ait quelque danger à encourager de pareilles inclinations, dans le cas présent, il n'a vraiment pas mal fait de venir, si originale que soit cette manière de se présenter. D'après l'idée que je me fais de lui, il nous amusera peut-être.
D'autant plus qu'il s'est invité lui-même, se hâta d'ajouter Ferdichenko.
Qu'est-ce à dire? Demanda sèchement le général, qui détestait le bouffon.
Eh bien, il payera son entrée, expliqua ce dernier.
Allons, le prince Mushkin n'est pas Ferdichenko, pourtant, répliqua Ivan Fedorovitch.
Rencontrer Ferdichenko dans un salon où cet individu se trouvait exactement sur le même pied que lui, c'était une chose que le général n'avait pas encore pu digérer.
Eh, général, épargnez Ferdichenko, répondit l'autre en souriant. J'ai des droits particuliers.
Quels sont ces droits particuliers?
La fois passée, j'ai eu l'honneur de les exposer à la société. Je vais recommencer aujourd'hui pour votre excellence.
Voyez-vous, excellence, tout le monde est spirituel, et moi je ne le suis pas. En dédommagement, j'ai obtenu la permission de dire la vérité, car il est bien connu que ceux-là seuls disent la vérité qui n'ont pas d'esprit. De plus, je suis un homme très rancunier, toujours par suite de mon manque d'esprit. Je supporte patiemment toutes les offenses,
mais jusqu'à la première disgrâce de l'offenseur. Vient-il à subir quelques revers, aussitôt je me souviens et je me venge. Je rue, comme a dit de moi Ivan Petrovitch Ptitsin, qui lui, sans doute, ne détache jamais de ruade à personne. Vous connaissez, Excellence, la fable de Krylov, le lion et l'âne? Eh bien, tenez, c'est vous et moi. Cette fable a été écrite pour nous deux.
Il paraît que vous recommencez à dire des sottises, Ferdichenko,
reprit d'un ton menaçant le général. Mais qu'avez-vous, Excellence? Soyez tranquille, je vais rester à ma place. Si j'ai dit que nous étions, vous et moi, le lion et l'âne de Krylov, c'était bien entendu pour m'attribuer le rôle de l'âne. Votre Excellence est le lion dont parle la fable. Un puissant lion, terreur des forêts, avait été privé de sa force par la vieillesse. Et moi, Excellence, je suis l'âne.
Sur ce point de vue, je suis de votre avis,
observa avec une irritation mal contenue Ivan Fédorovitch. Tout cela, sans doute, était fort grossier et d'une grossièreté préméditée. Mais on le passait à Ferdichenko, qui avait réussi à se faire accepter comme bouffon.
« Si on me laisse entrer ici, si l'on m'y tolère, avait-il dit un jour, c'est seulement pour que je parle dans cet esprit. Voyons, est-il possible de recevoir un homme comme moi? Je comprends bien cela. Peut-on me faire asseoir, moi, un Ferdichenko, à côté d'un gentleman aussi raffiné qu'Afanas Ivanovitch?
Reste une seule explication. On me donne place à côté de lui, parce que c'est une chose inimaginable. Mais, quoique grossière et souvent même très blessante, ces pasquinades semblaient faire plaisir à Nastasia Philipovna. Ceux qui désiraient fréquenter son salon étaient obligés d'en prendre leur parti et de subir Ferdichenko. Peut-être celui-ci ne se trompait-il pas en supposant qu'on le recevait pour vexer Totski, à qui, dès l'abord, il avait profondément déplu. Gania, de son côté, se voyait constamment en butte au sarcasme du bouffon, lequel savait, par cette persécution, se concilier les bonnes grâces de Nastasia Philipovna.
« Le prince commencera par nous chanter la romance à la mode, j'en fais mon affaire !»
acheva Ferdichenko, et il regarda la maîtresse de la maison, attendant ce qu'elle allait dire.
« Je ne pense pas, Ferdichenko, et je vous prie de vous tenir tranquille !»
observa sèchement Nastasia Philipovna.
« Ah ! Du moment qu'une protection particulière le couvre, je rentre mes griffes !»
Mais sans l'écouter, la jeune femme se leva et alla elle-même recevoir le visiteur.
« J'ai regretté d'avoir oublié de vous inviter tantôt dans la précipitation de mon départ !»
dit-elle quand elle se trouva en présence du prince.
« Je suis enchantée que vous-même me fournissiez maintenant l'occasion de vous remercier et de vous louer pour votre résolution. »
Tandis qu'elle parlait, elle considérait Mushkin avec attention, cherchant en quelque sorte à lire sur son visage le motif de sa visite. S'il avait été moins troublé, le prince aurait peut-être répondu à ses paroles aimables. Mais il fut tellement ébloui qu'il ne put pas même proférer un mot. Nastasia Philipovna s'en aperçut avec plaisir. Ce soir-là, elle était en grande toilette et produisait un effet extraordinaire. Prenant le prince par le bras, elle le conduisit au salon. Sur le seuil, il s'arrêta tout à coup et d'une voix agitée murmura
« En vous, tout est perfection !» Même votre maigreur et votre pâleur. On ne voudrait même pas se figurer autrement votre personne. J'avais une telle envie de venir chez vous. Je... Pardonnez.
Ne vous excusez pas, répondit en riant Nastasia Philipovna. Ce serait enlever à la chose son originalité. On a donc raison quand on dit de vous que vous êtes un homme étrange.
Ainsi, vous me considérez comme une perfection, oui?
« Oui. Malgré votre pénétration, vous vous trompez. Je vous reparlerai de cela aujourd'hui même. » Elle présenta le prince à ses invités, dont une bonne moitié le connaissait déjà. Totski trouva un mot aimable à dire au nouvel arrivant. La conversation qui languissait parut se ranimer un peu. Toutes les langues se délièrent, toutes les rates s'épanouirent en même temps. Nastasia Philipovna fit asseoir le prince à côté d'elle. « Mais pourtant, qu'y a-t-il donc d'étonnant dans l'apparition du prince ?» se mit à crier Ferdichenko, dont la voix domina toutes les autres. « L'affaire est claire, elle s'explique d'elle-même. » « L'affaire n'est que trop claire et ne s'explique que trop bien par elle-même, » dit brusquement Gania, qui jusqu'alors était resté silencieux. « Aujourd'hui, j'ai presque constamment observé le prince, depuis l'instant où, dans le cabinet d'Ivan Fedorovitch, le portrait de Nastasia Philipovna a pour la première fois attiré ses regards. Je me rappelle très bien qu'alors déjà, il m'était venu une idée qui est à présent une absolue conviction pour moi. » Conviction confirmée, soit dit en passant, par les aveux que le prince lui-même m'a faits. » En prononçant cette phrase, Gania n'avait nullement l'air de plaisanter. Il était, au contraire, si sérieux, si sombre même, que cela parut un peu étrange. « Je ne vous ai pas fait d'aveux, » déclara en rougissant le prince. « J'ai seulement répondu à votre question. » « Bravo, bravo, au moins c'est de la franchise !» brailla Ferdichenko. « C'est à la fois adroit et franc !» Une explosion de rire suivit ses paroles. « Mais ne criez pas, Ferdichenko !» observa à demi-voix Ptitsine, choquée de ce mauvais ton. « Je n'attendais pas de vous de telles prouesses, prince !» dit Ivan Fedorovitch. « Mais êtes-vous sûr de ne pas aller sur les brisées de quelqu'un? Et moi qui vous prenais pour un philosophe? Oh, le sournois !» Voyant le prince rougir à cette inoffensive plaisanterie, comme le ferait une innocente demoiselle, j'en conclus que c'est un noble jeune homme, dont le cœur ne nourrit que les intentions les plus louables, remarqua inopinément le vieux professeur. C'était un septuagénaire affligé d'un vice d'articulation dû à la perte de ses dents. Il n'avait pas encore dit un mot, et personne ne pouvait présumer qu'il prendrait la parole durant cette soirée. Tout le monde se mit à rire de plus belle. Croyant, sans doute, que cette hilarité était un hommage rendu à son esprit, le vieillard s'y associa bruyamment, ce qui lui occasionna une violente quinte de toux. Nastasia Philipovna raffolait de tous ces vieux excentriques, sans même en excepter les Eurodivis. Aussi s'empressa-t-elle de dorloter le bonhomme. Après lui avoir prodigué les caresses et les baisers, elle le régala d'une nouvelle tasse de thé. Lorsque la servante entra, sa maîtresse lui demanda une mantille dans laquelle elle s'enveloppa et fit remettre du bois dans la cheminée. « Quelle heure est-il ? » questionna ensuite la jeune femme. « 10h30, » répondit la servante. « Messieurs, voulez-vous boire du champagne ? » proposa soudain Nastasia Philipovna. « J'en ai à votre disposition. Cela vous rendra peut-être plus gai. Je vous en prie, ne faites pas de façon. » Cette invitation, si naïvement faite surtout, parut fort étrange de la part d'une maîtresse de maison qui, chaque fois qu'elle recevait, se montrait toujours rigide observatrice du décorum. La soirée commençait à s'égayer, mais elle ne ressemblait pas aux précédentes. Pourtant, l'offre de boire du vin ne fut pas repoussée. Le général, le premier, l'accepta. Son exemple entraîna d'abord l'actrice, puis le vieillard, puis Ferdichenko, et finalement tout le monde. Totski lui-même fit comme les autres. Sans doute, la proposition était très risquée. Mais, pour en diminuer autant que possible le caractère inconvenant, il s'efforçait de la présenter sous les couleurs d'une agréable plaisanterie. Gania seul ne voulut rien prendre. Quant à Nastassia Philipovna, elle consentit à boire avec ses invités et annonça qu'elle viderait dans la soirée 3 coupes de champagne. Devant ces soudaines et bizarres incartades, on ne savait que penser. On la voyait par moments rêveuse, taciturne, morose même, et l'instant d'après, sans cause apparente, elle s'abandonnait à un rire hystérique. Certains soupçonnaient qu'elle avait la fièvre. À la fin, on remarqua qu'elle semblait attendre quelque chose, qu'elle regardait fréquemment la pendule, qu'elle devenait impatiente, distraite. « Vous avez un peu de fièvre, paraît-il ? » demanda l'actrice. « Vous pourriez même dire une forte fièvre. C'est pour cela que je me suis enveloppée dans cette mantille, » répondit Nastassia Philipovna, dont la pâleur s'accentuait et qui, de temps à autre, avait l'air de lutter contre un violent frisson. Un mouvement d'inquiétude se produisit parmi les visiteurs. « Si nous laissions en repos la maîtresse de la maison, » dit Totski en regardant Ivan Fedorovitch. « Pas du tout, messieurs, je vous prie de vous asseoir. Votre présence m'est particulièrement nécessaire aujourd'hui, » déclara d'un ton pressant et significatif Nastassia Philipovna. Et comme tous les invités savaient que ce même soir devait être prise une résolution très importante, ces paroles causèrent une immense sensation. Le général et Totski échangèrent encore un regard l'un avec l'autre. Gania s'agita convulsivement. « On ferait bien de jouer à quelques petits jeux, » suggéra l'actrice. « J'en connais un superbe et tout nouveau, » dit Ferdichenko. « Du moins, il n'a encore été expérimenté qu'une seule fois, et même laissé à rater. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'actrice. Un jour, je me trouvais en société, et, à vrai dire, tout le monde était un peu gris. Soudain, quelqu'un émit la proposition suivante. Sans sortir de table, chacun raconterait tout haut l'action qu'en son âme et conscience, il jugerait la plus mauvaise de toute sa vie. Seulement, on devait être sincère. La première condition, c'était la véracité. Il ne fallait pas mentir. « Voilà une étrange idée, » dit le général. « Certes, oui, Excellence, rien n'est plus étrange, mais c'est ce qui en fait le charme. »«
Cette idée est ridicule, » ajouta Totski.
« Mais du reste, elle se comprend. C'est une façon comme une autre de se vanter. »«
Peut-être bien, en effet, Afanas Ivanovitch. »
Mais avec un petit jeu pareil, on ne rit pas. « Au contraire, » remarqua l'actrice.
« C'est une chose tout à fait impossible et absurde, » déclara Ptitsine.
« Et cela a réussi ?» demanda Nastassia Philipovna.
« Non, ça a été un fiasco abominable. Chacun y est allé de sa petite histoire, beaucoup ont raconté la vérité, et même, figurez-vous, plusieurs l'ont dit avec plaisir. » Et ensuite, tout le monde s'est senti honteux, on n'a pas pu y tenir. En somme, pourtant, c'était fort gai dans son genre, naturellement.
« Mais vraiment, ce serait gentil !» reprit en s'animant tout à coup Nastassia Philipovna. « Il faudrait essayer, messieurs. Le fait est que nous n'avons pas l'air de nous amuser beaucoup. Si chacun de nous consentait à raconter quelque chose, dans ce genre... « De son plein gré, bien entendu. Ici, liberté complète. Hein? Qu'en dites-vous? Peut-être que nous pourrons y tenir. Du moins, cela ne manque pas d'originalité. »«
C'est une idée géniale !» s'écria Ferdichenko. « Du reste, les dames sont exclues. Les hommes seuls auront à se confesser. On tirera au sort comme l'autre fois. Certainement, certainement. Il va de soi qu'on ne force personne. » Libre à celui qui voudra absolument s'abstenir de le faire. Mais ce ne sera guère aimable. Écrivez vos noms sur un morceau de papier, messieurs, et mettez-les ici dans mon chapeau. Le prince les tirera. La théorie du jeu n'a rien de compliqué. Racontez la plus mauvaise action de toute sa vie.
C'est une chose extrêmement facile, messieurs. Vous verrez. Si quelqu'un a une défaillance de mémoire, je me charge de compléter immédiatement ses souvenirs. »
Cette proposition extravagante ne satisfaisait presque personne. Les uns fronçaient le sourcil, les autres souriaient d'un air louche, quelques-uns soulevaient des objections, mais sans trop y insister. Au nombre de ceux-ci se trouvait notamment Ivan Fédorovitch, qui n'osait se poser en adversaire résolu d'une idée dont il voyait que la maîtresse de la maison était férue. Quand une fois Nastasia Philipovna s'était décidée à manifester un désir, il fallait coûte que ce désir s'accomplît, fût-il le plus insensé et le plus préjudiciable à elle-même. Maintenant, elle se trémoussait, comme dans un accès d'hystérie, riant d'un rire nerveux et convulsif, surtout lorsque Totski, inquiet, lui faisait quelque observation. Ses yeux sombres luisaient pareils à des charbons ardents. Deux taches rouges se montraient sur ses joues pâles. Peut-être son caprice s'exaspérait-il encore devant les physionomies refrognées et chagrines de plusieurs des invités. Peut-être cette idée l'avait-elle séduite précisément par son brutal cynisme. Quelques-uns même étaient persuadés qu'il y avait là-dessous une arrière-pensée, un calcul. Du reste, chacun donna son consentement. En tout cas, c'était curieux, et pour certains, fort attrayant. Ferdichenko surtout se distinguait par son animation. « Mais si c'est une chose impossible à raconter devant les dames ?» observa timidement le jeune homme silencieux. « Eh bien, vous en raconterez une autre. Est-ce que ce sont les vilainies qui manquent ?» répondit Ferdichenko. « Que vous êtes jeune !»« Mais voilà, je ne sais laquelle de mes actions je dois considérer comme la plus mauvaise !» fit à son tour l'actrice. « Les dames ne sont pas tenues de se confesser, mais si on les en dispense, on ne le leur défend pas. Celles qui voudront le faire auront droit à notre reconnaissance. Les hommes eux-mêmes sont libres de ne rien raconter si cela leur est trop désagréable. » « Mais comment ici prouver que je ne mens pas ?» demanda Gania. « Or, si je mens, le jeu perd tout son sel. Et qui donc ne mentira pas ?» Personne, à coup sûr, ne dira la vérité. Mais c'est déjà amusant de voir comment les gens mentent. D'ailleurs, toi, Ganetchka, tu peux être tranquille à cet égard. Vu que ta plus vilaine action, tout le monde la connaît, sans que tu aies besoin de la dire. Mais pensez seulement à ceci, messieurs, s'écria tout à coup Ferdichenko dans un transport d'enthousiasme. De quel œil nous regarderons-nous les uns les autres après ces récits, demain, par exemple? Mais est-ce que c'est possible? Se peut-il vraiment que cela soit sérieux, Nastasia Philipovna? Demanda avec dignité Totski. Que celui qui craint le loup n'aille pas au bois, répliqua-t-elle en souriant. Mais permettez, monsieur Ferdichenko, est-ce qu'il est possible de faire de cela un petit jeu ? Reprit Afanas Ivanovitch, de plus en plus alarmé. Je vous assure que de pareilles choses ne réussissent jamais. Vous dites vous-même qu'une fois déjà, cela n'a pas réussi. Comment cela n'a pas réussi ? J'ai raconté la fois passée comme quoi j'avais volé 3 roubles. Soit. Mais il n'est pas possible que vous ayez raconté cela de façon à le rendre vraisemblable et à obtenir créance. Or, comme l'a très justement fait observer Gabriel Ardalionovitch, la moindre apparence de mensonge suffit pour ôter au jeu tout son piquant. Dans l'espèce, la sincérité ne se comprend qu'avec une forfanterie de mauvais ton qui serait souverainement déplacée ici. « Mais quel homme raffiné vous êtes, Afanas Ivanovitch! Même moi, vous m'étonnez !» cria Ferdichenko. « Voyez-vous, messieurs, en disant que je n'ai pas pu raconter mon vol d'une façon vraisemblable,
Afanas Ivanovitch donne très ingénieusement à entendre que je n'ai pas pu voler en réalité, parce qu'il est inconvenant d'avouer cela tout haut. Et pourtant, dans son fort intérieur, lui-même est peut-être intimement persuadé que Ferdichenko a très bien pu voler. Mais à notre affaire, messieurs, à notre affaire. J'ai vos noms, vous m'avez aussi donné le vôtre, Afanas Ivanovitch. Par conséquent, personne ne refuse. Prince, tirez.
Silencieusement, le prince plongea sa main dans le chapeau. Le premier nom qui en sortit fut celui de Ferdichenko. Puis le sort désigna successivement Ptitsin, le général, Afanas Ivanovitch. Le prince gagna, etc. Les dames s'étaient abstenues de prendre part à cette loterie.
« Oh, mon Dieu, quel guignon !» cria Ferdichenko. « Je pensais que le prince ouvrirait la marche et qu'ensuite ce serait le tour du général. Mais grâce à Dieu, du moins Ivan Petrovitch doit raconter après moi. C'est un dédommagement. Allons, messieurs, sans doute, je suis tenu de donner un noble exemple. Mais je regrette, on ne peut plus, dans le moment présent, d'être si peu de choses et de n'avoir rien de remarquable. Mon Tchin même est le plus insignifiant du monde. Au fait, quel intérêt y a-t-il à savoir que Ferdichenko a commis une vilenie? Et quelle est ma plus mauvaise action? J'éprouve ici l'embarras des richesses. Est-ce que je raconterai encore une fois ce vol pour prouver à Afanas Ivanovitch qu'on peut voler sans être un voleur? Vous me prouvez aussi, monsieur Ferdichenko, qu'on peut trouver un plaisir enivrant à raconter ses turpitudes, sans même y être invité par personne. Mais, du reste, excusez-moi, monsieur Ferdichenko.
Comment c'est, Ferdichenko? Vous ne faites que bavarder inutilement et ça n'en finit plus.
Ordonna d'un ton de colère Nastasia Philipovna impatientée. Tout le monde remarqua que sa gaieté fébrile avait brusquement fait place à une humeur maussade, grondeuse et irascible. Mais elle n'en persistait pas moins obstinément dans son impossible fantaisie. Afanas Ivanovitch souffrait le martyr. Il enrageait même de voir le calme d'Ivan Fédorovitch. Le général buvait son champagne comme si de rien n'était, et peut-être même se disposait à raconter quelque chose quand viendrait son tour.
Chapitre 14. Je n'ai pas d'esprit, Nastasia Philipovna. Voilà pourquoi je bavarde inutilement, cria Ferdichenko en manière de préambule. Si j'avais autant d'esprit qu'Afanas Ivanovitch ou qu'Ivan Petrovitch, je resterais tout le temps sans rien dire. Comme Afanas Ivanovitch et Ivan Petrovitch. Prince, permettez-moi de vous demander votre avis. Il me semble toujours que dans ce monde, le nombre des voleurs l'emporte de beaucoup sur celui des non-voleurs, et qu'il n'y a même pas d'homme, quelque honnête qu'il soit, qui n'ait commis au moins un vol dans sa vie. C'est mon idée. Du reste, je n'en conclus nullement que l'humanité tout entière soit composée de voleurs. Quoique parfois, vraiment, j'ai une envie terrible d'admettre cette conclusion. Qu'en pensez-vous ?
« Fille, que vous racontez bêtement !» dit Daria Alexievna. « Et quelle sottise vous avancez là ! Il est impossible que tout le monde ait volé quelque chose. Moi, je n'ai jamais rien volé. »«
Vous n'avez jamais rien volé, Daria Alexievna ? Mais que dira le prince, qui soudain est devenu tout rouge ?»«
Il me semble qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. Seulement, vous exagérez beaucoup. »
répondit le prince, dont le visage en effet s'était couvert de rougeur.
« Et vous-même, prince, n'avez-vous rien volé ?»«
Fille, que c'est ridicule! Songez à ce que vous dites, monsieur Ferdichenko !»
intervint le général.
« C'est-à-dire que, mis au pied du mur, vous avez honte de raconter, et vous voulez mêler le prince à votre mauvais cas. C'est bien heureux pour vous qu'il ait un si bon caractère !»
reprit sèchement Daria Alexievna.
« Ferdichenko, ou racontez, ou taisez-vous et restez seul à vous connaître. Vous feriez perdre patience à n'importe qui !»
dit avec irritation la maîtresse du logis.
« Tout de suite, Nastasia Philipovna. Mais si le prince a avoué, car les paroles et la rougeur du prince équivalent pour moi à un aveu, que dirait, par exemple, quelque autre, je ne nomme personne, s'il voulait jamais être sincère? En ce qui me concerne, messieurs, mon récit ne comporte pas de long développement. C'est une affaire fort simple, fort bête et fort vilaine. Mais je vous assure que je ne suis pas un voleur. J'ai volé je ne sais comment. Il y a 2 ans de cela, c'était un dimanche, à la campagne, chez Semen Ivanovitch Itchenko. Il y avait du monde à dîner. Après le repas, les hommes restèrent à table pour boire du vin. J'eus l'idée d'aller demander un morceau de piano à Marie Semenovna, la fille de notre amphitryon. En traversant la pièce du coin, j'aperçois un billet de 3 roubles, un billet vert, sur la table à ouvrage de Marie Ivanovna. Elle l'avait sans doute mis là pour acquitter quelques comptes de ménage. Dans la chambre, personne. Je prends l'assignat et je le fourre dans ma poche. Pourquoi ? Je l'ignore. Je ne comprends pas à quelle inspiration j'ai obéi. Seulement, je rentrai au plus vite à la salle à manger et je repris ma place à table. En attendant ce qui allait résulter de là, j'étais assez agitée, je bavardais sans discontinuer, je racontais des anecdotes, je riais. Ensuite, j'allais m'asseoir auprès des dames. Au bout d'une demi-heure environ, on s'aperçut de la disparition du billet et l'on commença à interroger les servantes. L'une d'elles, Daria, fut soupçonnée. Je manifestai une curiosité et un intérêt extraordinaires. Je me rappelle même que, pendant que Daria était toute troublée, je multipliai les instances pour la décider à avouer, en lui garantissant la clémence de Marie Ivanovna, et je tenais ce langage à haute voix, devant tout le monde. Tous avaient les yeux fixés sur moi, et j'éprouvais un plaisir extrême à penser que je prêchais la servante, tandis que le billet se trouvait dans ma poche. Le même soir, je bus ces 3 roubles. J'entrai dans un restaurant et je demandai une bouteille de Château Lafitte. Il ne m'était encore jamais arrivé de me faire servir ainsi une bouteille sans rien prendre d'autre. J'avais hâte de dépenser cet argent. Ni alors ni plus tard, je n'ai éprouvé ce qui peut s'appeler un remords de conscience. Certainement, je ne voudrais pas recommencer. Vous le croirez ou vous ne le croirez pas, peu importe. Eh bien, voilà tout. Seulement, ce n'est pas sans doute votre pire action, dit avec mépris Daria Alexievna. C'est un cas psychologique et non une action, observa Afanas Ivanovitch.
Et la servante ? Demanda Nastasia Philipovna sans cacher son violent dégoût.
La servante, naturellement, a été chassée dès le lendemain. C'est une maison où on ne plaisante pas.
Et vous l'avez laissée mettre à la porte ?
Voilà qui est exquis ! Fallait-il pas que j'allasse me dénoncer ?
Ricana Ferdichenko, quelque peu déconcertée d'ailleurs, car il ne pouvait s'empêcher de remarquer l'impression très désagréable que son récit avait produite sur tous les auditeurs.
« Que c'est sale !»
s'exclama Nastasia Philipovna.
« Bah, vous voulez qu'un homme vous raconte la plus vilaine action de sa vie, et vous exigez par-dessus le marché qu'elle ait de l'éclat ? Les actions les plus vilaines sont toujours fort sales, Nastasia Philipovna. Nous allons tout à l'heure être édifiés à ce sujet en entendant Ivan Petrovitch. D'ailleurs, combien y en a-t-il qui brillent d'un éclat extérieur et qui, ayant une voiture, voudraient à cause de cela passer pour des vertus? Des gens qui roulent carrosse, ils n'en manquent pas. Et par quel moyen?
En un mot, Ferdichenko s'était tout d'un coup fâché, et dans son irritation, il s'oubliait, dépassait la mesure. Son visage même avait pris une expression grimaçante. Quelque étrange que cela soit, il avait très probablement compté que son récit obtiendrait un tout autre succès. Sa jactance de mauvais ton, comme disait Totski, lui faisait fort souvent commettre de ses bévues. Tremblante de colère, Nastasia Philipovna regarda fixement Ferdichenko. Celui-ci fut comme glacé de crainte et se tut à l'instant même. Il était allé trop loin.
« Si on en restait là ?» demanda Afanas Ivanovitch.
C'est mon tour, mais je profiterai de la faculté laissée à tout le monde et je ne raconterai rien, » dit résolument Ptitsin.
« Vous ne voulez pas ?»
Je ne puis pas, Nastasia Philipovna. Du reste, je considère un pareil amusement comme impossible.
Général, je crois que votre tour est venu,
dit Nastasia Philipovna à Ivan Fedorovitch.
Si vous refusez aussi, tout le jeu sera désorganisé et je le regretterai, car je me proposais de raconter en forme de conclusion un fait de ma propre vie. Seulement, je ne voulais parler qu'après vous et après Afanas Ivanovitch. Il faut en effet que vous m'encouragiez, acheva-t-elle en souriant.
Oh, du moment que vous faites cette promesse,
s'écria avec feu le général, je suis prêt à vous raconter toute ma vie. Mais je l'avoue, en attendant mon tour, j'avais déjà préparé mon anecdote.
Ferdichenko sourit malignement.
Et rien qu'à voir son excellence, on peut deviner avec quel vif plaisir littéraire elle a pioché sa petite anecdote,
osa observer le bouffon, bien qu'il n'eût pas encore recouvré toute son assurance. Nastasia Philipovna regarda rapidement le général, et un sourire vint aussi sur ses lèvres. Mais à chaque minute s'accusait davantage son énervement et son irascibilité. Depuis qu'elle avait promis un récit, Afanas Ivanovitch éprouvait un surcroît d'inquiétude.
« Il m'est arrivé, comme à tout le monde, messieurs, de commettre d'assez mauvaises actions dans le cours de mon existence, » commença le général. « Mais, chose étrange, la courte anecdote que je vais raconter est celle que je considère comme la plus vilaine de toute ma vie. Depuis lors, près de 30 ans se sont écoulés, et je ne puis y songer maintenant encore sans une sorte de souffrance morale. L'histoire, du reste, est excessivement bête. À cette époque-là, je venais d'être nommé enseigne. On sait bien ce que c'est qu'un enseigne. Il a le sang chaud et la bourse plate. J'avais pour denshtik un certain Nikifor, qui s'occupait de mon ménage avec beaucoup de zèle. Il allait à la provision, raccommodait mes effets, tenait mon appartement en ordre, et même chipait à droite et à gauche, dès qu'il en trouvait l'occasion, tous les objets dont l'acquisition pouvait rendre mon intérieur plus confortable. C'était un homme très dévoué et très honnête. Moi, naturellement, j'étais sévère, mais juste. Nous dûmes séjourner pendant quelque temps dans une petite ville. On m'envoya loger dans un faubourg, chez la veuve d'un ancien sous-lieutenant. Cette femme était octogénaire, où peu s'en fallait. Elle habitait une petite maison de bois, vieille, délabrée, et sa pauvreté était telle qu'elle n'avait même pas de servante. Autrefois, on lui avait connu une très nombreuse famille, mais parmi ses proches, les uns étaient morts, les autres s'étaient dispersés ou l'avaient oublié. Quant à son mari, elle l'avait perdu depuis près d'un demi-siècle. Quelques années auparavant, la veuve avait eu avec elle une nièce. Cette dernière était une bossue, méchante, dit-on, comme une sorcière, à ce point qu'un jour elle mordit le doigt de sa tante. Mais la nièce vint aussi à mourir, en sorte que depuis 3 ans, la vieille se trouvait toute seule. Je m'ennuyais passablement chez elle. D'ailleurs, elle était si vide qu'on n'en pouvait rien tirer. Finalement, elle me vola un coq. Le fait jusqu'à présent n'a pas encore été éclairci, mais ce vol n'a pu être commis que par elle. Nous eûmes ensemble une querelle sérieuse au sujet du coq. Puis je demandai la permission de changer de logement. On me transféra alors à l'autre bout de la ville, chez un marchand qui était père d'une très nombreuse famille et qui avait une longue barbe. Il me semble que je le vois encore. Nikifor et moi, nous nous rendîmes avec joie dans cette maison, et mes adieux à la vieille furent des moins amicaux. 3 jours après, comme j'arrivais de l'exercice, Nikifor me dit « Vous avez eu tort, votre noblesse, de laisser notre soupière chez l'ancienne logeuse. Nous n'avons plus rien pour servir la soupe. » Naturellement, je n'y compris rien. « Comment cela ? » répondis-je. « Par quel hasard notre soupière est-elle restée chez la logeuse ?» Ce fut au tour de mon Danchik d'être étonné. « Lorsque nous sommes partis de chez elle, reprit-il, elle a refusé de rendre notre soupière, prétextant qu'un pot à elle avait été cassé par vous et que vous lui aviez vous-même offert cette soupière en dédommagement. » Bien entendu, une telle bassesse me révolta. Mon sang d'enseigne se mit à bouillonner. Je ne fis qu'un saut jusqu'à la demeure de la vieille. J'arrive, pour ainsi dire, hors de moi. Je regarde, elle est assise toute seule dans un coin du vestibule, comme si elle s'était retirée là pour fuir l'ardeur du soleil. Elle a la joue appuyée sur la main. Je commence aussitôt à l'invectiver dans les termes les plus violents. « Tu es une ci, une là !» Vous savez si le vocabulaire russe est riche en injures. Mais je l'observe et je remarque dans son aspect quelque chose d'étrange. Ses yeux grands ouverts sont fixés sur moi, elle ne cesse de me regarder et ne profère pas une parole. Son corps a l'air de vaciller. À la fin, ma colère se calme, j'examine la vieille, je l'interroge, pas un mot de réponse. Je ne sais que penser. Les mouches bourdonnent, le soleil se couche, le silence règne dans la maison. Enfin, je m'en vais, fort troublé. Je ne revins pas tout de suite chez moi. Le major m'avait fait demander. Après avoir passé chez lui, j'allais donner un coup d'œil à ma compagnie. Bref, il était fort tard quand je rentrais dans mon logement. Le premier mot de Nikifor fut « Savez-vous, votre noblesse, que notre logeuse est morte ?»«
Quand ?»«
Mais ce soir, il y a de cela 1h30. » C'était donc pendant que je l'injuriais qu'elle avait rendu l'âme. Je vous l'assure, cette coïncidence me frappa tellement que j'eus peine à reprendre mes esprits. Je me mis à penser à la défunte et même à en rêver la nuit. Sans doute je n'ai pas de préjugés, mais le surlendemain j'allais à son enterrement. En un mot, à mesure que le temps passait, je songeais davantage à la malheureuse vieille. Je me disais... Cette femme, cette créature humaine a vécu longtemps. Jadis, elle a eu des enfants, un mari, une famille, des proches. Tout cela s'agitait autour d'elle. Elle était comme environnée de sourires. Et soudain, tout cela a disparu. Elle est restée seule comme une mouche, portant sur elle la malédiction de l'âge. Enfin, Dieu la rappelle à lui. Au moment où le soleil se couche, par une douce soirée d'été, ma vieille s'envole aussi. Sans doute ce rapprochement comporte une pensée instructive. Et voilà qu'au lieu de larmes pour l'accompagner dans son dernier voyage, elle n'a que les insultes d'un jeune enseigne qui, le poing sur la hanche, lui fait une scène épouvantable à propos d'une soupière. Assurément, j'ai eu tort. Et si j'envisage à présent mon action avec plus de sang-froid, je n'en continue pas moins à plaindre la pauvre femme. C'est au point, je le répète, que je m'en étonne moi-même. Car après tout, je ne suis guère responsable de ce qui est arrivé. Pourquoi donc s'est-elle avisée de mourir juste dans ce moment-là? Quoi qu'il en soit, je n'ai pu calmer mes remords qu'en fondant 2 lits dans un hospice pour assurer à 2 vieilles femmes malades le repos et le bien-être durant les derniers jours de leur existence terrestre. Cette fondation existe depuis 15 ans et j'ai l'intention de la rendre perpétuelle. J'y pourvoirai par mes dispositions testamentaires. Eh bien, voilà tout. Je répète que j'ai peut-être commis beaucoup de fautes, mais qu'en conscience, Je regarde cette action comme la plus vilaine de toute ma vie. »
Loin d'être la plus vilaine de votre vie, Excellence, l'action que vous nous avez racontée est une de celles qui vous font le plus d'honneur. Vous vous êtes joué de Ferdichenko, observa le bouffon.
Au fait, général, je ne m'imaginais pas que vous aviez si bon cœur. C'est même dommage,
dit négligemment Nastasia Philipovna.
Dommage? Pourquoi donc?
Demanda avec un rire aimable Ivan Fedorovitch, et, très content de lui-même, il vida son verre de champagne. C'était maintenant le tour d'Afanas Ivanovitch, qui avait aussi préparé un récit. Tout le monde devinait qu'il ne se déroberait pas comme Ivan Petrovitch, et pour certaines raisons, on était curieux de savoir ce qu'il raconterait. En même temps, on observait Nastasia Philipovna. Totski prit la parole avec une dignité extraordinaire qui seyait à son extérieur imposant. C'était, disons-le entre parenthèses, un homme de bonne mine, grand et assez gros. Il avait un four atelier, des joues vermeilles et un peu flasques, un crâne en partie chauve, en partie couvert de cheveux blancs. Élégamment vêtu, sans que sa mise eût rien d'étriqué, il se faisait surtout remarquer par la beauté de son linge. Ses mains blanches et potelées attiraient le regard. Une bague, ornée de diamants, brillait à l'index de sa main droite. Tant qu'il parla, la maîtresse de la maison considéra attentivement la dentelle qui garnissait sa manche et ne leva pas une seule fois les yeux sur le narrateur.
« Ce qui facilite, on ne peut plus ma tâche !» commença d'un ton doux et gracieux Afanas Ivanovitch,
c'est l'obligation formelle de ne raconter que la plus mauvaise action de ma vie. En pareil cas, naturellement, il ne peut pas y avoir d'hésitation. Le choix est vite fait pour peu qu'on se laisse guider par la conscience et par la mémoire du cœur. Parmi les innombrables légèretés que j'ai à me reprocher, j'avoue avec chagrin qu'il en est une dont le souvenir n'a pas cessé de m'être fort pénible. Cela date d'une vingtaine d'années. Je me trouvais alors à la campagne, chez Platon Ordantzeff. Il avait été nommé tout récemment maréchal de la noblesse, et il était venu passer les fêtes d'hiver en province avec sa jeune sœur. Justement, le jour de naissance d'Anfisa Alexievna approchait, et deux bals devaient avoir lieu. C'était le moment où faisait fureur dans le grand monde la Dame aux camélias de Dumas fils, ce délicieux roman qui, à mon avis, sera immortel et toujours jeune. Toutes les femmes en raffolaient, celles du moins qui l'avaient lu. La mode avait adopté les camélias, pas une dame qui ne voulut en avoir. Ces fleurs étaient devenues l'accessoire obligé d'une toilette de bal. Or, je vous le demande, pouvait-on s'en procurer aisément dans une petite localité où tout le monde se les arrachait? Petia Forkovskoy était alors amoureux fou d'Anfisa Alexievna. Je ne sais pas, vraiment, s'il y avait quelque chose entre elle et lui. Je veux dire, s'il pouvait avoir quelque espoir sérieux. Le pauvre garçon désirait passionnément procurer des camélias à Anfisa Alexievna pour le prochain bal. On savait que Sophie Bespalov et la comtesse Sotsky, une pétersbourgeoise en visite chez la gouvernante, y viendraient toutes deux avec des bouquets blancs. Madame Ordantzeff, pour un certain effet particulier, en voulait de rouge. Elle mit son mari en campagne et il s'engagea à lui trouver les fleurs tant désirées. Malheureusement, tous les camélias avaient été raflés la veille par Catherine Alexandrovna Mitychchev, qui était à couteau tiré avec Anfisa Alexievna. Le résultat se devine. Attaque de nerfs, évanouissement de la jeune femme, désespoir de Platon. Que Petia réussit là où le mari avait échoué, cela, on le comprend, pouvait avancer singulièrement ses affaires. En pareil cas, la reconnaissance féminine n'a point de borne. Il se démène comme un diable dans un bénitier.
Mais est-il besoin de le dire? Tous ses efforts restent infructueux. Soudain, la veille du bal, je le rencontre à 11 heures du soir chez une voisine d'Ordenzeff, Marie Petrovna Zubkov. Il est rayonnant.
« Qu'est-ce que tu as ?»«
J'ai trouvé Eureka !»« Eh bien, mon ami, tu m'étonnes. Où ? Comment ?»«
À Ekshaïsk, une petite ville située à 20 verstes de là, dans un autre district, habite un vieux et riche marchand du nom de Trepalov. C'est un homme marié et sans enfant. Sa femme et lui élèvent des serins. Tous deux ont la passion des fleurs. Je trouverai des camélias chez Trepalov. »
« Ce n'est pas sûr. Et puis, voudra-t-il t'en donner ?»«
Je me mettrai à genoux devant lui, je me roulerai à ses pieds. Je ne m'en irai pas sans en avoir. »«
Quand y vas-tu ?»«
Je pars demain, à 5 heures du matin. »«
Eh bien, que Dieu te conduise. » »«
Vous savez, j'en étais bien aise pour lui. » »« Je retourne chez Ordenzeff, il était plus d'une heure du matin. » »« Je me dispose à me coucher, et tout d'un coup, une idée fort originale me vient à l'esprit. Je me rends aussitôt à la cuisine, j'éveille le cocher Savel. « Attelle-moi des chevaux d'ici à une demi-heure !» lui dis-je en lui mettant 15 roubles dans la main. Au bout d'une demi-heure, naturellement, tout se trouve après. Anfisa Alexievna, me dit-on, avait la migraine, la fièvre, le délire. Je monte en voiture et me voilà parti pour Ekshaïsk, où j'arrive entre 4 et 5 heures. Je descends à l'auberge en attendant le lever du jour. Puis, dès que l'aurore commence à poindre, vers 7 heures, je vais trouver Trepalov.
« Tu as des camélias ? Batouchka, mon père, secours-moi, sauve-moi, je t'en supplie à genoux. »«
Non, non, pas du tout, je n'y consens pas. » me répond le marchand, un grand vieillard aux cheveux blancs et au visage sévère. Je tombe à ses pieds. Ceci est à la lettre, je me prosterne devant lui.
« Que faites-vous, Batouchka, que faites-vous, mon père ? » reprend-il, étonné, effrayé même.
« Mais c'est qu'il y va de la vie d'un homme !» lui criai-je.
« Allons, puisqu'il en est ainsi, prenez-les et que Dieu vous assiste. »
Incontinent, je fais main basse sur les camélias rouges. Ils remplissaient toute une serre. C'était admirable à voir. Trepalov soupire. Je tire 100 roubles de mon porte-monnaie.
Non, Batouchka, veuillez m'épargner l'offense d'un tel procédé.
En ce cas, répliquai-je, permettez-moi, honoré monsieur, de vous offrir ces 100 roubles pour l'hôpital de votre localité.
C'est une autre affaire, Batouchka, répond-il. J'accepte votre argent du moment qu'il s'agit d'une bonne œuvre, d'une action noble et agréable à Dieu. Puisse-t-il vous récompenser?
Vous savez, ce vieillard me plut. C'était, comme on dit, un russe de la vraie souche. Tout heureux d'avoir si bien réussi, je me mis en route immédiatement. Je revins par des chemins de traverse pour ne pas rencontrer Pétia. Dès que je fus arrivé, j'envoyai le bouquet à Anfisa Alexievna. Elle le reçut au moment de son réveil. Vous pouvez vous imaginer sa joie, sa reconnaissance. Platon, la veille encore, tué, anéanti, Platon se jeta dans mes bras en sanglotant. Hélas, tous les maris sont les mêmes depuis la création du mariage. Je n'ose rien ajouter. Je me bornerai à dire que cet incident ruina définitivement les affaires du pauvre Pétia. Je pensais d'abord que, quand il saurait tout, il me tuerait, et je pris même des mesures en conséquence. Mais les choses suivirent un cours tout différent de ce que j'aurais pu supposer. Pétia s'évanouit. Le soir, il eut le délire, et le lendemain matin, la fièvre chaude se déclara chez lui. Il sanglotait comme un enfant. Il avait des convulsions. Sa maladie dura 1 mois, et dès qu'il fut rétabli, il se fit envoyer au Caucase. Bref, un vrai roman. En fin de compte, il fut tué en Crimée. Son frère, Stepan Forkovskoï, était déjà à cette époque un brillant colonel. J'avoue que cette affaire m'a laissé de longs remords. Pourquoi ai-je causé un tel chagrin à Pétia? Pas encore, si alors j'avais été moi-même amoureux. Mais non, c'était de ma part une simple niche,
un caprice de libertin, rien de plus. Et si je ne lui avais pas soufflé ce bouquet, il vivrait peut-être encore. Il serait heureux. Il n'aurait pas eu l'idée d'aller se faire tuer par les Turcs. »
Afanas Ivanovitch termina son récit avec une dignité calme, comme il l'avait commencé. Quand il eut fini, on remarqua que les yeux de Nastasia Philipovna brillaient d'un éclat particulier, et même que ses lèvres tremblaient. Tous les regards se portèrent curieusement sur le narrateur et sur la jeune femme.
« On a trompé Ferdichenko, on l'a mystifié. Non, c'est ce qui s'appelle une flouerie !»
gémit Ferdichenko, comprenant qu'il pouvait et devait glisser son petit mot.
« Mais à qui la faute si vous ne comprenez rien? Voilà, instruisez-vous auprès des gens d'esprit !»
répliqua presque triomphalement Daria Alexievna. C'était la vieille amie, l'âme damnée de Totski.
« Vous avez raison, Afanas Ivanovitch. Ce petit jeu est fort ennuyeux et il faut y mettre fin le plus tôt possible, »
dit négligemment Nastasia Philipovna.
« Je raconterai moi-même ce que j'ai promis, et vous allez tous pouvoir jouer aux cartes. »
Mais avant tout, l'anecdote promise, »
fit avec chaleur Ivan Fedorovitch. Brusquement, à la surprise générale, la maîtresse de la maison interpella Mushkine.
« Prince, » commença-t-elle d'une voix vibrante, « mes vieux amis que voici, le général et Afanas Ivanovitch, me prêchent continuellement le mariage. Donnez-moi votre avis. Dois-je ou non me marier? Ce que vous aurez dit, je le ferai. »
Afanas Ivanovitch pâlit. Le général demeura stupéfait. Tous allongèrent la tête en ouvrant de grands yeux. Le sang se glaça dans les veines de Gania.
« Avec qui ?» demanda le prince d'une voix à peine distincte.
« Avec Gabriel Ardalionovitch Ivolgin, » répondit Nastasia Philipovna en détachant nettement chaque syllabe. Il y eut un silence de quelques secondes. Il semblait que la poitrine du prince était écrasée sous un poids terrible et qu'aucun son n'en pouvait sortir.
« Non, ne vous mariez pas, » murmura-t-il enfin, et il respira avec effort.
« Ainsi soit-il, » déclara Nastasia Philipovna. Puis, avec un accent d'autorité, de triomphe en quelque sorte, elle s'adressa à Gania. « Gabriel Ardalionovitch, vous avez entendu la décision du prince? Eh bien, c'est ma réponse. Que désormais, il ne soit plus question de cette affaire. »
« Nastasia Philipovna !»
articula d'une voix tremblante Afanas Ivanovitch.
« Nastasia Philipovna !»
fit le général d'un ton pressant, mais où perçait l'inquiétude. Toute la société était en émoi.
« Qu'est-ce qu'il y a, messieurs ?» poursuivit la maîtresse de la maison, qui semblait considérer avec étonnement ses invités. « Pourquoi vous émouvoir ainsi? Et quel visage vous avez tous ?»«
Mais rappelez-vous, Nastasia Philipovna !» balbutia Totski. Vous avez fait une promesse, entièrement libre, et vous auriez pu jusqu'à un certain point épargner. J'ai peine à m'exprimer, et sans doute je suis troublée, mais en un mot, maintenant, dans un pareil moment, et devant tout le monde, et tout cela si finir par un petit jeu semblable, une affaire sérieuse, une affaire d'honneur et de cœur, d'où dépend.
Je ne vous comprends pas, Afanas Ivanovitch. En effet, vous êtes tout dérouté.
D'abord, que signifient ces mots? Devant tout le monde. Est-ce que nous ne sommes pas dans une société choisie et intime? Ensuite, que parlez-vous de petits jeux?
Je voulais effectivement raconter une anecdote. Eh bien, voilà, je l'ai racontée. Est-ce qu'elle n'est pas jolie?
Et pourquoi dire que ce n'est pas sérieux? Est-ce que cela ne l'est pas?
Vous l'avez entendu, j'ai dit au prince, il sera fait comme vous l'aurez dit.
S'il avait dit oui, j'aurais aussitôt donné mon consentement. Mais il a dit non, et j'ai refusé. Est-ce que ce n'est pas sérieux? Et si toute ma vie tenait à un cheveu, quoi de plus sérieux? Mais le prince, pourquoi faire intervenir ici le prince? Et qu'est-ce enfin que le prince? Grommela le général, qui pouvait à peine contenir son indignation en voyant accorder tant d'importance à l'opinion de Mushkin. Voici ce que le prince est pour moi. C'est le premier homme dont le dévouement sincère m'ait inspiré confiance. Il a cru en moi à première vue, et je crois en lui. Pâle, les lèvres crispées, Gania prit enfin la parole. Il ne me reste qu'à remercier Nastasia Philipovna de l'extrême délicatesse dont elle a fait preuve à mon égard, dit-il d'une voix frémissante. Sans doute cela devait être, mais le prince dans cette affaire... Faites un coup de 75 000 roubles, n'est-ce pas? Interrompit brusquement Nastasia Philipovna. C'est cela que vous vouliez dire? Ne niez pas, vous vouliez certainement dire cela. Afanas Ivanovitch, j'avais encore quelque chose à ajouter. Gardez pour vous ces 75 000 roubles, et sachez que je vous rends votre liberté gratis. Assez, il faut bien que vous respiriez aussi. 9 ans et 3 mois. Demain commencera une vie nouvelle, mais aujourd'hui c'est ma fête, et je m'appartiens pour la première fois depuis que je suis au monde. Général, reprenez vos perles, donnez-les à votre épouse, les voici. Dès demain, je quitterai cet appartement. Et désormais, il n'y aura plus de soirée, messieurs. Après avoir ainsi parlé, elle se leva soudain, comme si elle eût voulu s'en aller. Nastasia Philipovna! Nastasia Philipovna! Fit-on de tous côtés. L'agitation était générale. Tous les visiteurs avaient quitté leur place et entouraient la maîtresse de maison, écoutant avec inquiétude ces paroles saccadées, fiévreuses, délirantes. Personne n'y comprenait rien. L'ahurissement, le désarroi étaient à son comble. Sur ces entrefaites retentit brusquement un coup de sonnette, tout aussi fort que celui qui, tantôt, avait jeté l'émoi dans la demeure de Gania. Ah ! Voilà le dénouement ! « Enfin, il est 11h30 !» cria Nastasia Philipovna. « Je vous prie de vous asseoir, messieurs, c'est le dénouement !» Cela dit, elle s'assit elle-même. Un étrange sourire tremblait sur ses lèvres. Silencieuse, elle attendait avec anxiété, et ses yeux ne quittaient pas la porte. « Rogojine et les 100 000 roubles, sans doute !» murmura en aparté Ptitsine.